Allez, c'est un peu là. Non. Non, on n'est pas encore à l'antenne. On sera à l'antenne après le générique. Là.
Oui, mais quand... Enfin, non, pardon. Quand c'est rouge, on...
Quand ça... Ouais, tout à l'heure, quand ce sera rouge, on sera à l'antenne.
Mais on pourra pas parler. Je sais plus. J'ai pas compris.
Si, tu peux parler. Enfin, bon, c'est de la radio. Vaut mieux tu parles un peu, quoi.
Et quand c'est rouge, on parle. Quand c'est pas rouge, on peut pas parler. Je me souviens pas. Ce que tu m'as dit tout à l'heure.
Si. Quand ce sera rouge, on sera à l'antenne.
D'accord.
Pour l'instant, ça ne l'est pas, donc on n'est pas à l'antenne, t'inquiète pas. Juste, pour les essais, Cass, t'en penses quoi? T'entends bien, toi?
Oui, je t'entends très bien.
Cool. Bon, ça va?
Oui. Bon, t'as la liste avec toi, hein?
Ouais, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai la playlist, et j'ai surtout... bah voilà, ce que tu m'as dit, j'ai bien compris. Bon, alors, on donne pas le nom de ton zine, ça c'est quand même le truc. Attends, je mets un peu... voilà... ça j'ai compris, je respecte, pas de soucis, et je comprends la démarche, ok. Et bon, tu vas voir, dans l'émission, j'ai prévu 2-3 questions, il y a des blind tests, il y a un petit peu, tu vois, une thématique de jeu, et ça commence dès le générique, en fait, puisque je l'ai un peu modifié. Je te faisais tout à l'heure, là. J'ai repris le titre de Fleas and Lice, Up the Punks, et voilà, j'ai remplacé le Up the, alors, bon, rien à voir avec ton zine, évidemment, par 5 groupes en fait que tu vas devoir retrouver. C'est des groupes des années 90, et donc à un moment ils disent up the, une nouvelle fois, voilà, c'est le hasard total, et le premier, je vais un peu t'aider quand même parce que c'est pas facile, le premier il est états-unien, okay, le deuxième il est espagnol, et on en a parlé aussi il y a pas très longtemps, le troisième il est allemand, le quatrième, il est américain. Le cinquième, il est allemand. Et c'est aussi un gros, gros coup de cœur. Voilà, d'après toi... et, autre indice hyper important, tous les groupes commencent par la lettre Z. Mais c'est hasard total aussi. Total hasard.
Un groupe espagnol commence par Z.
Ouais,
on en a parlé il n'y a pas longtemps.
Ouais, tout à fait. Chez Watt.
Ah oui, t'avais le t-shirt. Non, c'est pas celui-là. Le t-shirt espagnol.
Ouais. Et alors d'après toi, tu peux en trouver combien sur 5?
Alors je suis quasiment sûr qu'il y a Zegota.
Bon, alors sur 4.
Et d'ailleurs.
Ah, très bien. Ouais, bah, peut-être. Mais alors faut trouver la position. Alors t'as déjà trouvé le groupe avant même d'avoir passé. C'est énorme.
Alors, pour les 4 autres, après, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Waouh.
Bon,
en par cas, Z.
Ouais, bah, t'auras de la musique quand même pour t'aider.
Zoro.
Non, mais il y a un des groupes qui a fait un split avec un groupe. Ils ont utilisé la pochette de Zoro. Mais là, je t'en dis trop, arrête. Parce que là, moi, j'ai un petit business quand même avec ce truc de Paris. Tu vois, je me fais un petit billet à chaque fois.
Okay.
T'es coté à 15 contre 1. Bon, je sais pas ce que t'en penses. Quoi. Et on donnera à la toute fin, les résultats. C'est du teasing, c'est de la com. Et comme j'ai fait un stage à Rire et Jeanson, et ils ont très fort sur la com, c'est Mathieu et voilà, et Berthier de la Compta qui m'ont un peu, toi, un peu fié des tuyaux. Uh-huh. Alors écoute, je vais balancer bientôt le générique.
Uh-huh.
On
je vais y aller, moi.
Tu t'en.
La bonne.
Non, mais t'inquiète, on parle pas de ton zine. Voilà, bon, on a rien oublié. On donne. Ouais. Non, c'est bon pour toi.
Ouais.
Top générique, c'est cool, on rentre tranquille.
Ouais, t'as 5 minutes de retard.
Top générique. Brother, wake up!
quelle idée de l'homme avez-vous? Eh bien, je crois que l'homme a été, sinon un mauvais rêve, sinon un cauchemar, du moins une figure très particulière, très déterminée, historiquement située à l'intérieur de notre culture.
Vous voulez dire que c'est une invention?
C'est une invention que l'homme.
Eh bien, bonjour chez vous, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud, c'est l'émission Up the Avis d'Ordure qui commence, émission 7.2.3, émission un petit peu particulière ce soir. En effet, l'équipe n'est toujours pas au complet, d'ailleurs j'ai croisé Steph par hasard au concert de Ghetto, où j'étais moi aussi là par hasard. Et tu y étais pas, je crois, non. Avec nous ce soir dans les studios, Jeff, un pote.
Salut. Oui, bonsoir, c'est ça?
Mais ouais.
Ah ok.
Salut, ça va?
Ah oui, salut à toi.
Pas mal. Bon, je sais que tu kiffes pas particulièrement l'exercice de la radio. Alors en vrai, merci d'être là, c'est trop cool. Alors en préambule, tu fais un zine. Que dis-je, un zine? Un monument du zine. Mais par respect pour ta volonté, on a décidé, même si les gens aimeraient bien savoir, de ne pas le nommer, de ne pas se focaliser dessus, car c'est pas le plus important. Tu n'es pas qu'un zine. C'est plus complexe. Ce soir, tu es un peu l'homme masqué, tu es un peu le calage criminel du zine. Mais surtout, tu es là comme passionné, pas comme spécialiste ou expert. Alors dans cette émission, il y a des traditions. Il y a le salut à toi, tu en as un peu parlé. Il y a le happening de la gênance, tu vois, qu'on est un peu en train de vivre en ce moment. Et il y a surtout, tu sais quoi? Il y a la fameuse séquence que tu connais par cœur, voilà, des chiffres et des lettres. Alors, le choix difficile, je sais, mon ami Jeff, les chiffres ou les lettres?
Les lettres.
Alors les lettres, c'est parti. Voici un nouveau coup de lettres, tirage.
C'est parti, voici un nouveau coup de lettres, le tirage.
U, P, T,
H,
E, Z, I, N, E, S.
Si les gens ont une idée, ils peuvent appeler après le tirage. Première fausse question de l'interview. Toi qui poses beaucoup de questions dans ton zine, est-ce que tu penses comme moi que la question est plus importante que la réponse?
J'ai répondu, ça y est. Non, c'est pas là. C'est oui et non, en fait. La question, elle peut être pétée, et la réponse, elle peut être très intéressante, et vice-versa. Je pense pas que... Non, je pense qu'une question, très banale, tu peux avoir une super réponse si t'as quelqu'un qui a envie de faire une bonne réponse, quoi.
C'est... Bon, mais c'est... on peut considérer que c'est une bonne réponse.
En tout cas, c'est une bonne question.
Alors la première vraie question, voilà, autour des origines, à savoir d'où l'on parle, c'est hyper important pour toi, pour comprendre notre rapport au punk. Tu demandes souvent comment tout a commencé, alors tu n'y échapperas pas, c'est une question vraiment à la Up the Zine.
Pas dit, fallait pas le dire.
Peux-tu nous parler de tes premiers pas dans le punk et voilà pourquoi avoir commencé à faire un zine, et ça permettra de mettre nos chaussons... De l'émission.
Le punk, je pense qu'il y a, dans nos générations, on est de la même génération. Hein.
Ouais.
Je pense qu'il y a deux points d'entrée où on rentrait plus par le punk et l'alterno, où on rentrait par le hard rock, ce qu'on appelle maintenant le metal, le nard. Et moi, en fait, c'est ma porte d'entrée, donc le hard, quoi, donc 85, 86 par là. Et au fur et à mesure, tu dérapes, tu glisses vers ça parce que pour plein de raisons, je pense notamment tu arrives dans le métal pour le côté un peu transgressif, enfin qui se veut transgressif. Au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est relativement de pacotille, tu recherches un truc un peu plus en adéquation. Et là, effectivement, en l'occurrence, en ce qui me concerne, une phrase où je dis rien, t'as vu
si ça te concerne.
Les zines, ils ont une importance parce qu'effectivement, les premiers zines donc de metal de punk que je découvre, ils me permettent de rentrer dans le punk, dans le côté plus underground. Moi, j'ai pas commencé par le punk les Sheriff Company, quoi. J'ai commencé directement, on va dire, par des trucs comme Napalm Death, des choses un peu plus, à l'époque, un peu plus obscures, quoi. Et en venant du métal, parce que je pense que je recherchais quelque chose de plus obscur. Et après, moi, le côté, voilà, du punk, comment dire, franchouillard ou alterno et compagnie, ça me parlait pas du tout.
Okay.
Voilà, ça me parlait pas. C'est venu beaucoup, beaucoup plus tard. Donc voilà, ça, c'est mon arrivée dans le punk, c'est à cette époque-là. Alors, elles sont aussi de façon un peu biaisée, parce que je pense que le premier disque de punk, entre guillemets, que je vais acheter, c'est une compil de chez SST Records, le label de Black Flag, qui s'appelait de mémoire Programme Annihilation. Et c'est un double LP, sauf qu'en fait, donc pour moi, c'était, voilà, c'était Black Flag, c'est un groupe de punk, SST, c'est un label de punk, sauf qu'en fait, SST, c'est un label hyper éclectique. Et cette compil, en fait, elle proposait tout sauf du punk, c'est-à-dire c'était Black Flag de la fin, donc qui faisait un truc de métal un peu chelou. C'était des trucs comme ça, Inviteuse, des choses comme ça. Donc tout, en fait, tout le pan métal du label, mais enfin métal, c'est pas le mot, mais qui avait un côté un peu plus pété que Iron Maiden, Judas Priest. Donc pour moi, tu vois, ça, entre punk et métal, il n'y avait pas énormément de différence, quoi.
Mais j'ai l'impression que c'est porte d'entrée, justement, c'est aussi porte d'entrée vers des univers. Tu t'arrêtes pas un groupe, en fait, ce groupe, tu te satisfais pas d'un groupe,
bien
en fait,
sûr.
Tu dis ouais, mais déjà, bon, le groupe existe, mais là tu cites le label et souvent il y avait une fidélité, une curiosité par rapport au label. Et rapidement, en fait, on écoute autre chose, en fait, surtout à ce moment-là où tout est neuf.
Je crois qu'il y a quand même le côté, il y a quand même, surtout à ces âges-là, quoi.
Il y a juste le côté identitaire. Période, hein.
Ça, c'est 88-89.
Ok.
Ouais. Donc, il y a le côté identitaire, quoi. Tu étais ado, etc. Donc, forcément, tu t'apparentes à des choses, tu t'accapares des pans complets, quoi. C'est pas juste un groupe. Alors, forcément, il peut y avoir un groupe qui porte l'entrée, qui te permet de rentrer plus dans les choses, mais je pense quand même il y a vraiment ce côté, tout un pan, tu vois, de façon indirecte, quelqu'un qui est rentré dans ce truc-là par la scène Straight Edge, tu vois, de cette époque-là, c'est vraiment, tu rentres par la scène Straight Edge, Youth of Today et Gorilla Biscuit, quoi. Donc il y a vraiment un côté très identitaire, qui est normal quand t'es ado. Hein.
Carrément, c'est même fondamental, ce tout côté... De se reconnaître aussi à travers l'autre, puis il y a les looks, etc. Mais il y a cette idée que je trouve hyper... c'est enthousiasmant, c'est-à-dire c'est l'arbre qui cache quelque part une forêt, tu rentres dans une forêt, en fait. Toi, t'as l'impression qu'il y a deux petits arbres, mais en fait, derrière...
Non, ouais, mais après, ce qui est intéressant dans cette forêt... Alors, l'analogie de la forêt est super intéressante, parce qu'au bout d'un moment, tu vas t'intéresser qu'à un type d'arbre. Et après, si une forêt, si tu parles de si la forêt c'est le punk, au bout d'un moment, le punk c'est tellement vaste, c'est tellement large, aussi bien au niveau des styles que des messages véhiculés. Donc au début, tu t'intéresses qu'à un type d'arbre. Au bout d'un moment, tu es encore, mais en fait, il y a des chênes, il y a aussi des peupliers. Ouais. Ah, mais c'est cool, mais je préfère le peuplier au chêne, en fait. Tu vois, des choses comme ça. Donc, j'aime bien.
Comment se fait ce moment où tu dis d'un coup, je vais prendre une petite branche pour écrire et faire un zine, en fait?
Moi, c'est venu assez tard, hein, mes premiers zines. Alors, j'avais participé avec des potes début des années 90, où tu avais la grosse explosion de la scène death metal. Donc, j'avais des potes qui faisaient quelques trucs là-dedans. Je m'étais un peu essayé avec quelques chroniques, etc. Bon, j'étais pas forcément hyper raccord, parce que je donnerais même pas le nom, tellement qu'il est... Il est loin de nos préoccupations, on va dire. Et donc, voilà, il y avait déjà des petits trucs idéologiques qui pouvaient coincer. Donc moi, je commençais comme ça, en faisant quelques chroniques, et après, en me prenant la tête avec mes potos sur leur télé. Les gars, c'est bien rigolo, mais le côté prout-prout, ça va deux minutes, quoi. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'ai fini mes études, que je suis rentré sur Tarbes, puisque je suis tarbé, tu l'as pas dit, ça.
Pas encore, c'est
non,
c'est
tu l'as
fou,
pas
ça.
Dit.
Ça fait quoi, 10 minutes, un quart d'heure, on a même pas... Ah ben ouais, tout vient de là, on a même pas cité Tarbes, quoi, c'est ouf. Tarbes, si tu nous écoutes.
Tarbes, si tu nous entends. Et donc en rentrant, voilà, il y a une petite effervescence. Au même moment, il y a des personnes, dans certaines que tu peux connaître, Damien par exemple, qui en arrivent à la même situation, au même moment, aux mêmes envies, où tu as un peu plus de temps disponible, et tout, tu as envie de faire des choses, de participer à des choses qui peuvent exister, etc. Il y a du groupe qui existe, et tu dis, ça serait cool si on faisait des trucs autour de ça. Et quand tu sais à peu près rien faire, t'as aucun talent, aucune capacité, que t'as encore moins de thunes, qu'est-ce qui te reste? Bah, le fanzine, ouais. En fait. Donc, tu connais ça.
Comme on n'a pas réussi à faire des groupes, on
n'a pas réussi. Enfin, moi, j'ai toujours eu la prétention de savoir que j'avais aucune prétention. Donc, je n'allais pas me lancer dans une aventure. Je crois que j'aurais plus réussi à me dire, t'es, demain, j'attaque l'Everest en tongue que t'es, demain, je monte un groupe. Quoi. Okay. C'est plus facile. Donc, voilà. Donc, ouais, tu te dis, je pense que c'est vraiment, hormis avec le truc qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire de la radio. Qui demande effectivement une logistique qui t'appartient pas, cette logistique là c'est quand même les façons de te rendre parce que quelque chose qui a quand même disparu de nos jours. Alors, c'est émission vieux con je pense hein. mais de te rendre utile à un truc qui s'appelle une scène, je pense que la façon la plus facile, la plus rapide, la moins onéreuse, la moins coûteuse en compétences, ça reste faire un fanzine hein.
Ce que j'ai appris, je ne savais pas, tu n'as pas commencé tout de suite par le zine, le chronique de zine. Quoi. Mm. Et c'est intéressant parce que malgré tout, il est sur l'idée que le zine va te ressembler.
Tout à fait.
Donc tu vas parler de toi. D'où vient ce besoin, cette envie de parler de toi? Tu viens de dire d'être utile à la scène.
Ah ouais, mais c'est deux choses différentes. Moi, okay. Je pense pas. Alors en creux. En creux, je pense que quand tu lis plusieurs zines ou quoi que ce soit, tu peux voir à peu près où je peux camper politiquement, etc. Mmh. Je pense que c'est évident. Donc indirectement, tu parles de toi. Mais pour moi, le fanzine, tel qu'il a pu être et tel que je pense que je cherche encore à le faire, ça reste le média d'une scène et ça reste un outil pour la scène. Mmh. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est faire un outil pour la scène, quoi. Moi, quand quelqu'un m'écrit, il me dit ouais, grâce à ton dernier numéro, j'ai découvert 2-3 zines que j'ai commandées qui sont super bien. Ben, je me dis, ouais, le job il est fait, quoi. C'est ça qui m'intéresse.
Ouais, tu te mets c'est vraiment pas, au service
de. Ouais, voilà, c'est pas parler de moi. Enfin, j'ai pu le faire dans d'autres fanzines. Il y a eu une grosse vague de fanzines comme ça, effectivement, ouais. Où c'était très, très, très ce qu'il fallait faire. On en parle souvent, c'est un sujet qui nous tient à cœur, mais dans ma première playlist, il y avait un morceau d'Embrace à cause de ça, parce qu'à un moment donné, le vieux Yann, il dit « Your emotions are nothing but politics, so get control ». Pour moi, voilà, tout est là, quoi. Mm-hmm. Et sauf qu'au moment, effectivement, le personnel, c'est politique, mais le politique, c'est personnel. Mais au moment, les gens, ils parlaient plus que de personnel pour personnel, mm-hmm. Et en ayant enlevé toute la partie politique,
ouais,
en fait.
Complètement.
Donc moi, je pense pas être là. Je l'ai fait en pur exercice de style, justement avec Bzezine. Mais je pense pas que Bzezine soit là-dedans, que ce soit une perso où je parle de moi. Quoi.
Non, t'es en retrait. T'essayes de parler des valeurs communes, en fait. T'essayes d'aller chercher ça, en tout cas, chercher un peu le meilleur dans l'autre.
Alors ce qui est intéressant, là, c'est que comme c'est de la radio et que c'est pas filmé, j'annonce de la tête, en fait. Pour dire qu'il a raison. voilà. Donc il manque l'image en fait. Je pense que ça serait bien d'inventer un truc qui ressemblerait à la radio, mais avec de l'image.
Mais c'est intéressant, je trouve, la façon dont tu peut-être progressivement mis en retrait quelque part et un peu comme une retraite aussi à travers le zine, tu te mets de plus en plus en retrait.
Ouais, tu trouves?
Je sais pas, c'est volontairement une métaphore qu'on abordera un peu plus tard. J'ai l'impression que ta grande quête morale personnelle, qui est au cœur de ton rapport au monde, c'est aussi le fait de te sentir légitime ou pas. C'est un questionnement qui est permanent pour toi, aussi dans le cadre de la prise de parole. C'est aussi pour ça que c'était un peu difficile pour toi de venir ce soir. Mais t'as raison, c'est hyper important. On n'est pas que ce qu'on fait, évidemment, et heureusement, quoi. Et que là, on a une conversation et t'es vraiment là en tant que passionné, en tant que quelqu'un qui lit des zines depuis très 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 longtemps, quoi. Et vraiment pas en tant que spécialiste ou doctorant, ça c'est vraiment bullshit. Enfin, chez toi, cette notion de réfléchir sans cesse au fait de te sentir légitime, ça te travaille, quoi, vraiment.
Ouais, bien sûr, ça me travaille. Alors c'est quasi de l'ordre de la psychanalyse, mais si le politique est personnel, forcément, on peut y mettre un peu... On peut mettre du psy là-dedans aussi, quoi. Mais ouais, moi je pense qu'effectivement il y a un rapport à la légitimité où sur ça on en a pas mal parlé. Et la légitimité, tu la tires d'où? Tu la tires de quoi? Et il y a un rapport de classe, clairement. Et ouais. ça chez moi c'est fondamental. C'est pas chez moi c'est fondamental, c'est quelque chose qui est assez viscéral, que pendant longtemps j'ai pu alors c'est compliqué parce qu'il y a aussi un comment dire il y a y a une sorte de perte de loyauté avec tes origines sociales, etc. Quand tu accèdes à un niveau social auquel tu n'étais pas censé accéder, ce qui est plus ou relativement mon cas. Donc en vieillissant, forcément tu questionnes de plus en plus ça, et tu te rends compte qu'en fait c'est une vraie question politique qui est posée un peu partout, la légitimité du pourquoi on fait les choses, de comment on fait les choses. Et tu te rends compte que de là où tu parles, dit différemment et peut-être crûment de la classe sociale dont tu es issu, tu te la poses plus ou moins cette question avec plus ou moins d'importance et plus ou moins justement de légitimité à te la poser. Voilà, les gens qui se la posent pas. J'ai encore eu un échange épistolaire avec quelqu'un qui me chopait le mail et qui réagissait sur une chronique que j'avais pu faire où je citais une personne et il défendait cette personne. Or que je le taquais pas vraiment, et bon, j'ai pas encore répondu, mais ce qui ne questionne pas là, effectivement, c'est que la personne, quand elle parle d'une posture de privilégié socialement, et effectivement c'est plus facile.
Mais parce que toi, ta classe sociale, tu te trimbales avec, en fait, en permanence.
Ouais, parce
quoi,
que tu te trimbales avec, tu vois,
sur les
effectivement.
Épaules, dans
voilà,
ta tête,
voilà, mais tout le monde, mais sauf que tout le monde, sauf qu'il y a plein de gens qui ne le voient pas, qui ne le savent pas, qui ne le reconnaissent pas, parce que, et surtout dans des milieux relativement militants et relativement radicaux, parce que ça questionne qui tu es. Hier, j'étais à la maison avec quelqu'un que tu connais très bien. Et on parlait de certaines histoires qui émeuvent le microcosme punk depuis 2 ans. Et quelqu'un qui est très 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 présent sur les réseaux sociaux en ce moment, qui a priori distribue des bons points de lutte des classes. A priori, elle ne sait pas vraiment ce que c'est qu'être de la classe laborieuse, cette personne-là. Mais elle se permet de distribuer des points de toi, t'es un vrai militant, toi t'es pas un vrai militant, voilà, parce que toi tu luttes pour la classe des laborieux, etc. et tout, mais ouais, mais est-ce que t'en es vraiment issu, quoi ? Et en l'occurrence, pas forcément. Et ces gens-là, ils questionnent pas. Ces gens-là, c'est facile pour eux de pas questionner, et du coup, ils questionnent pas la légitimité à faire les choses.
Et d'ailleurs,
que je suis clair, j'en sais rien.
Si, si, mais ce qui est terrible, c'est que, une nouvelle fois, c'est toi qui te poses des questions de légitimité, quoi. C'est-à-dire, tu trimbales aussi ce truc.
Mais parce qu'on te l'enlève, parce que tous les jours la société te l'enlève. C'est-à-dire quand il y a quelques années j'ai un bisbis avec un mec qui apprécie pas ce que je dis sur lui dans une chronique et qu'on se prend la tête par mail et à base bon c'était cours maternel et que en troisième échange de mail tout ce qu'il trouve à dire c'est ouais et puis ton zine il est perclu de faute d'orthographe. Ce qui est pas faux, ce qui est même très vrai. Tu dis bon, mais boum, tu le veux le rapport de classe.
Ah ouais, mais c'est
dans ta gueule,
c'est
le rapport
une
de
violence,
classe.
Ouais, mais c'est ouf.
Dans ta gueule, parce que c'est clairement.
Ça veut dire ça, quoi. Ouais, ouais.
Clairement, on le sait, quoi. Enfin voilà, enfin quand tu viens d'un milieu de milieu prolo, ben ouais, ton accès à la lecture, ton accès à la culture, ouais. Etc. Il fait que nanana. Et ouais, c'est clair que la zine, il y a plein de fautes d'orthographe. Et pour moi, c'est une souffrance. C'est chaque fois que j'ouvre le zine, premier truc, quand j'ouvre le zine, je tombe sur une faute d'orthographe quand je viens de l'éditer, tu vois. Et à chaque fois, ça me rend malade.
Mais justement, pour revenir sur ce truc de conflit affectif par rapport à ta classe, l'idée d'émancipation, elle est passée par la curiosité. Enfin, tu vois, elle est passée par le punk. Enfin, toi, et pas par la famille. Donc
ah oui, clairement,
c'est,
voilà.
C'est ça aussi le
conflit. Et une fois de plus, on en revient à ça. Et une fois de plus, par les fanzines. C'est-à-dire, moi, la première fois où on fait partie d'une génération où... où les termes d'antispécisme, de lutte des Indiens d'Amérique, sur des sujets comme ça, mais tu vois, où des choses arrivaient. Moi, la première fois que j'ai entendu parler d'agisme, je peux te dire vraiment quand c'est une interview de National Ulysses dans Earthquake, où Fred leur pose la question qu'est l'agisme, et boum, d'entrée de match, ils avaient un discours très situ, qu'à l'époque, je ne maîtrisais pas du tout, j'avais 18 ans, je ne savais pas ce que c'était le situationnisme. Et que, ouais, vous avez quel âge, vous faites quoi dans la vie? Et boum, la réponse, c'est notre âge n'a pas d'importance, et tout un discours sur l'agisme. Et t'es là, tu lis ça, waouh. Wow, moi, si j'ai lu le monde diplomatique, c'est parce que les thugs, ils parlaient du monde diplo, quoi. Voilà, la première fois que j'ai lu le monde diplomatique, je pipais rien, quoi. Mais si pendant des années, si j'ai pu apprendre 2-3 choses grâce au monde diplomatique, je vois à quoi je dois aux thugs, et je dois à quoi au fait que les thugs, ils en parlaient dans quoi? Dans des fanzines.
Carrément, mais c'est vrai que ce glissement sociologique en fait des personnes un peu nouvelles qui sont dans la scène, qui composent la scène punk, ont fait disparaître l'imaginaire de confrontation des luttes des classes, clairement,
ouais,
quoi.
Tout à fait.
Et il y a plusieurs théories sur la fin du punk, et ça, ça peut être une des théories, quoi, comme avec les dinosaures. Celle-là, on fait part, enfin, je dis la fin du punk, en tout cas, du punk, comme tu vois.
En fait, ouais, mais justement, tu parles des dinosaures, tu vois, si c'est dangereux ça, parce que si tu parles d'un. En fait, si je décrypte ton propos, c'est pas la fin du punk, c'est la fin d'un certain punk.
Ouais.
D'un certain punk qu'on a pu connaître, et on va, pour simplifier, les années 90, où effectivement c'est peut-être l'époque la plus politisée, mais nos âges font que, notre génération font que, c'est là où on s'est aussi investi. Donc, déjà, première chose qu'on a questionné, c'est qu'est-ce que nous on n'y met pas dans la nostalgie. Ça, déjà, ça me semble hyper
très
important.
Bonne question.
Est-ce
très
que tu
bonne
vois,
question.
Donc déjà, est-ce qu'on fantasme mais... pas un passé qui répond à une année où on était, un, plus jeune, deux, vachement plus activiste,
carrément,
actif
bien
et activiste.
Sûr, tout à fait.
Et puis... donc tout ça, mais après, objectivement, effectivement, c'était des scènes où il y avait de la confrontation, quoi. Enfin, tu vois, tout à l'heure, on parlait de groupe Krishna. Là, j'ai chopé une anthologie de trois fanzines que je ne connaissais, qui s'appelle Illusion, je ne sais plus quoi. Je ne suis pas très précis. Donc, était fait par Porcel, le guitariste à l'époque de Shelter, et avant de Youth of Today. Et donc, en fait, c'est un zine Krishna.
Oui, ça.
Que je ne connaissais pas, donc je chopais ça et tout. Et à l'intérieur, dans le premier numéro, dans le deuxième numéro, je ne sais plus, il publie une lettre de Hans, de Liar. Et avant Blindfold, groupe belge, etc. Yes. Et waouh, le truc qu'il publie, mais c'est super bourrin, quoi. C'est-à-dire l'autre, il va pas par quatre chemins. C'est-à-dire il y a une critique de la religion de façon générale et de la religion Krishna, mais il y va hyper fort, quoi. Ouais, le mec de Blindfold, quoi. Et malheureusement, ça on l'a plus, quoi. Et le gars de, enfin donc Porcel, il publie ça, il répond. Avec ses arguments qui valent ce qu'ils valent, et qui sont en l'occurrence rien, il répond à un courrier qui est hyper véhément, qui est hyper violent, quoi. Bon, ça, alors, à la limite, tu vas le retrouver à l'heure actuelle dans les réseaux sociaux.
Ouais, peut-être, ouais.
Peut-être, c'est pas faux. Mais malgré tout, je trouve que dans la scène punk, effectivement, punk au sens très large, ça a quand même relativement disparu. On est dans un milieu très... Alors, quelque part, c'est super bien, je trouve. Non mais c'est vrai,
ouais, c'est difficile,
un côté choupinou, moi qui pour le moment me va très 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 bien. Ouais, je trouve que ouais, c'est cool tout ça et tout, mais par moment, tu vois, avoir un peu de confrontation, avoir avec un groupe qui sur scène dit des trucs moi qui me conviennent pas, et à la fin du concert pour le voir et dire hey, les gars, je suis pas d'accord avec ce que vous avez dit de la merde, ça fait combien de temps que ça t'est pas arrivé, ça?
Ouais, carrément, ouais. Bon, c'est inévitable, ça fait un peu partie de qui tu es là pour le coup. Donc, pour revenir un peu sur les zines et les quantités incalculables de zines que tu as dû lire, mais, et les quantités calculables par contre de zines que tu as chroniquées.
Nous avons les chiffres, messieurs.
Ouais,
nous avons les chiffres.
T'as les chiffres sous les yeux. Donc, comme tu es super balèze en zine, malgré tout, on va partir, tu vas voir, sur la fameuse playlist zine. Alors, la playlist zine, c'est quoi? Je te fais écouter les premières mesures d'une chanson. Et automatiquement, tu es capable de me donner le nom d'usine. Alors, c'est plutôt drôle, on a eu la même idée avec ta playlist dont on écoutera quelques titres. C'est plutôt easy. On commence en un mood un peu franchouillard, tout ça. Non. Tu sais, là. Vas-y, balance.
Caméra Silence.
Et le nom d'usine?
Rien qu'entraînant.
Non, c'est pas celui-là.
Non, non, pour quoi. Ça va arriver.
Ouais, ça va arriver.
On va attendre que ça arrive.
Alors, attends.
J'adore, comme tout le monde, j'adore Caméra. C'est maintenant.
Ouais.
Voilà. Super zine de Paris.
Ouais. Une vie pour rien. Allez, deuxième titre.
Eh oui, une vie pour rien, zut.
Ah, on est dans un bon groupe aussi. Ils se sont, quoi. Tu peux trouver.
Couleur inverse sur la batterie.
J'ai confiance. Tu as un pote.
C'est une défense. Ouais. Ah, ben oui, voilà. Oui.
Ah mince. Mais ils l'ont dit.
Mais comment par le dire.
Mais ouais. Donc, c'est quoi alors, Fanny?
Donc c'était quoi? C'était
continu dans le lait. Hein. Désolé, hein. Il le dit tout de suite là, si tu peux nous épargner, tu vas voir.
Ouais, mais le problème c'est que je suis méga fan, quoi.
Ah,
ça va toi t'es...
Ouais, ouais, non mais là je suis méga fan quoi. J'adore ce morceau quoi. Ce premier album est incroyable.
Négative.
Bon t'as trouvé alors.
Bah oui c'est la souris.
Bon le dernier pour cette première série.
Un grand prénom.
Ouais.
Caméra toujours.
Caméra toujours ouais. Et le nom du groupe, le nom d'usine.
Ben rien qu'entrer non. Non, encore de nouveau. Non, mais,
c'est une question quoi. Un peu.
Ouais, bien sûr. La faute à qui?
Ouais, ouais, bien sûr. Joué.
Je fais partie, bon. Je crois, des rares personnes coming out qui préfèrent la deuxième période des caméras à la première.
C'est vrai.
Ouais.
Ah ben pendant, t'es le seul. Hein, j'ai l'impression que les gens ne l'écoutent
période,
pas.
La période de sol, tout ça, je trouve ça incroyable ce qu'ils ont fait. Justement un peu à la Redskin quoi.
Ah mort. Bon, c'est pas une raison pour nous passer le titre.
Ah mince.
Oh.
the socialist revolution, the revolutionaries are a minority.
Bon écoute, tu t'en es bien sorti quand même, ça ouais. Va quoi. Allez, avec. On a des questions d'auditeurs. Et d'ailleurs, c'est maintenant.
Salut tout le monde, salut Jeff. Eh bien, étant un lecteur captif et assidu de Up the Zine, je suis toujours marqué à chaque numéro par l'enthousiasme que tu peux avoir pour. De nouveaux fanzines, des anciens fanzines qui reviennent, des anciens fanzines qui perdurent, en bref, un enthousiasme vraiment renouvelé, constant, pour les fanzines en général. Et ça fait quand même une paire d'années que tu en fais, que tu en lis, et je voulais un peu savoir quel était le secret de cette non-lassitude, de cet enthousiasme permanent, et comment tu faisais toi pour, je sais pas, te renouveler cet enthousiasme, s'il a besoin d'être renouvelé. Voilà, c'est un peu... un secret de fabrication, peut-être que je te demande, mais bon, on est quand même ici à la radio pour, eh bien, pour se chuchoter des choses qui valent le coup, donc peut-être c'est le moment de donner ta recette. Voilà, merci, à bientôt.
Bon, effectivement, je vais lâcher un gros pavé dans la mare. En fait, je fais comme une maison d'édition bordelaise relativement connue. Je lis pas du tout en fait les fanzines que je chronique. Je vais voir sur internet ce qui se dit et après je prends ce qui se dit et je fais un melting pot et j'arrive à faire une chronique qui se tient à peu près. J'ai autre chose à faire dans ma vie que lire les fanzines, quoi, t'imagines.
Tu sous-traites.
Donc non, je regarde ce qui se dit sur internet et après voilà, je fais un copier-coller. Et ça c'est la première recette, le premier secret. Le deuxième secret, c'est une grosse dose d'hypocrisie. Voilà, c'est que je fais le mec hyper enthousiaste, mais en fait j'en ai strictement rien à faire. J'ai longtemps cru, j'ai essayé d'y croire encore qu'en fait c'est un moyen de gagner ma vie en ne faisant rien. Je gagne pas vraiment ma vie avec ça et ça demande quand même pas mal de boulot. Sinon je sais pas quoi dire. C'est que voilà, j'aime lire les fanzines parce que pourquoi d'ailleurs. C'est compliqué, je sais pas, parce qu'en fait c'est je me dis de me dire qu'un fanzine qui est fait à 200 exemplaires, que 200 pélos vont lire et qui va concerner un si petit monde, j'ai l'impression que le temps d'un instant je fais partie d'un micro club. En fait, on en revient vraiment au truc des origines et se dire voilà, enfin, quelqu'un met du temps, de l'énergie à faire un fanzine à quelques dizaines, quelques centaines d'exemplaires pour peut-être des choses un peu d'ego certainement, mais pas que. Je trouve ça génial. Et effectivement, ouais, des fois il y a des zines qui sont moi je peux m'extasier, ouais, peut-être sur des fanzines qui sont vraiment pas incroyables, qui sont faits de briques et de brocs et tout, mais si je vois que la personne fait ça avec sincérité, en fait ouais, le monstre il est là, en fait c'est ça, c'est si c'est fait avec sincérité sans trop de calcul, je trouve ça génial. Et après le fait est les chroniques à brassées larges dans le punk, hein, parce qu'en partie ça ressemble aussi à ma discothèque, voilà, c'est que j'écoute des trucs, alors j'ai des styles de prédilection et tout ça et tout, mais voilà, je vais écouter des trucs très 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 variés. Du coup, je peux me retrouver dans plein de choses très très variées, très très différentes dans un fanzine. Et voilà, et ça peut toujours m'enthousiasmer. Et des fois, alors c'est marrant ça d'ailleurs, c'est un point intéressant aussi. Des fois un peu moins quoi. Ce qui peut être intéressant, c'est que deux trois fois on a pu me reprocher d'être véhément et de dézinguer des fanzines, et au même moment d'autres personnes qui connaissent mes fanzines d'avant et qui lisent mes fanzines depuis un petit moment disent en fait tu t'es vachement adouci quoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc ça c'est intéressant et après en vieillissant aussi, peut-être malheureusement, peut-être ça s'appelle la sagesse, je vais peut-être aussi m'auto-censurer, c'est peut-être un peu gros, mais ouais, effectivement, des fois, bon, je vais pas forcément dire des choses, je vais positiver sur des choses qui ne mériteraient pas forcément, mais si je sens qu'il y a de la sincérité chez l'auteur, eh bien, c'est important, quoi.
Quand tu t'auto-censures, c'est pour pas blesser l'autre, c'est ça ?
Oui, voilà, ça peut pas être blesser l'autre. Il fut un temps où je pouvais en moquer, voilà, je disais les choses sans trop de filtre. Alors, tu peux me voir des fois à l'oral, tu le sais que des fois je peux dire des conneries comme ça à l'oral et tout. Et avant, je le faisais plus par écrit. Au bout d'un moment, tu te rends compte effectivement que des fois, ce que tu peux écrire, ça peut. Ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fond et la forme. Où on est à une époque, et ça rejoint aussi ce qu'on disait sur la scène punk telle qu'elle peut être maintenant, où la forme, elle peut prendre plus le dessus sur le fond, quoi. C'est-à-dire, quelqu'un qui est con, c'est quelqu'un qui est con. C'est pas parce que tu dis vous êtes con, merci monsieur, que. Voilà, que la chose elle est mieux dite, j'en sais trop rien, quoi. Donc, ouais, il y a le fond et la forme et tout. Donc, effectivement, j'essaie d'être un peu plus attentif à la forme, même si sur un ou deux fanzines, de temps en temps, dont je te parlais tout à l'heure, là, dire des choses assez cash et dire que le zine il est vraiment nul parce qu'il est vraiment nul et que le gars qui fait ça c'est un baltringue, je peux l'écrire quoi, parce que à un moment donné c'est viscéral quoi. Si le gars il le prend mal. Après j'ai vraiment du mal avec ça, les gens qui disent ouais merci pour ta chronique, ouais la chronique elle est pas cool, et à chaque fois ma réponse c'est la même, c'est juste la vie d'un pélo, tu vois, avec son filtre que tu connais pas forcément, aussi bien en positif qu'en négatif. C'est tellement pas important, quoi. C'est un zine qui sera édité à 200 exemplaires, 250 maximum. C'est tellement pas important. T'as fait un truc et le gars, il a pas aimé ce que t'as fait. Mais c'est pas grave, quoi. Et ou le contraire aussi, quoi. Je trouve pas ça important. Enfin, moi, si t'aimes pas mon zine et que t'écris que mon zine, il est nul, ben c'est pas grave. Franchement, sincèrement, ça me blesse pas, quoi. Parce que c'est pas important, en fait. La vie de quelqu'un, c'est pas important.
Pour reprendre cette image de la forêt, parce que t'as pas trop répondu, pourquoi ? Parce que j'ai eu l'impression que t'allais dire que parfois t'as eu envie de quitter la forêt. Mais pourquoi t'y restes dans la forêt ? Pourquoi t'es toujours en quête des nouveaux arbres ?
Parce que quand tu quittes la forêt, donc le punk, t'arrives dans le désert, donc le vrai monde. Et on est tous confrontés, ne serait-ce que par nos activités salariales. Et ce monde-là, même si par moment le punk il peut nous saouler, on peut par moment être sentir en décalage et tout, c'est quand même un milieu où il y a beaucoup de gens qui sont bienveillants, qui partagent en très très grande partie des valeurs et avec qui t'as pas besoin de te prendre la tête. Et on a tous des images de collègues au travail, par exemple, tout simplement. Qui sont profondément persuadés d'être de gauche et que le racisme c'est pas bien, mais qui pour te balancer une bonne blague raciste sont pas les derniers et à rire bien avec un rire bien gras, quoi. On est tous confrontés à ça, quoi. Ou quand je vais chez le coiffeur et qu'il me sort des propos dignes de Poujade dans les années 50, tu vois, bon, ben ça c'est le désert qui entoure cette forêt là, quoi.
Alors, je suis d'accord et à la fois pas d'accord, parce que pour moi, j'ai aussi la vision du punk qui, c'est la vie pleinement et complètement. C'est-à-dire, c'est super d'avoir des forêts dans lesquelles tu peux te réfugier, tu vois. Mais l'idéal politique, il est que la forêt prenne...
Et croise qu'elle prenne dessus sur le désert, effectivement. Mais oui, bien évidemment, je suis d'accord avec ça, mais malheureusement, c'est que c'est pas le cas.
C'est-à-dire les arbres, ça met longtemps à pousser.
Ouais, oui, exactement. C'est exactement. Ouais, c'est bien sûr, c'est ça.
Il y a des incendies.
C'est, oui, il y a des incendies, ah ouais, effectivement. A priori, il peut y avoir des incendies. Donc, faut pas planter des pins.
Ouais.
Ne plantez pas des pins. Voilà. Mais non, mais je pense vraiment que c'est ça qui fait que, ouais, même si par moment tu es mécontent, que tu peux avoir des bisbises idéologiques avec des gens, mais dans l'absolu, tu partages quand même des choses, quoi. Ouais. C'est-à-dire que, ouais, on sait que c'est des endroits. Non, ils ne sont pas à 100%, parce que ça n'existe pas, ils sont à 100% safe, mais où on évitera plein de comportements dégueulasses. Où, moi, par exemple, j'ai dû un mal fou de la main à la main avant de m'enzine, quoi. Parce que le rapport marchand, il me pose problème, quoi. Il me pose vraiment, vraiment, vraiment problème. Et malgré tout, on est confronté tous les jours au rapport marchand. Et dans cet endroit-là, eh bien, on n'y est pas censé l'être et tout ça. Et des fois, et ouais, un gars qui arrive 2 ans après, qui me dit « Tiens, je fais un fanzine, il y a 2 ans, tu m'as filé ton fanzine, je te file le mien. » C'est cool, quoi. Tu vois, il n'y a pas ce rapport.
Voilà, pour moi, c'est encore un truc de légitimité, quoi. Et de rapport un peu truqué du do-it-yourself, du no-profit.
Aussi, aussi, bien sûr.
Parce que tous les gens qui se posent zéro souci avec le fait de vendre des disques chers, tout bien en sûr, disant, je sais pas quoi, do-it-yourself, eux, ils se posent pas de questions par rapport à ça.
Mais après, moi, tu connais mes paradoxes, je les assume, c'est qu'effectivement, ce que je m'applique, ben, je vais être un peu moins regardant. Des fois, effectivement, des labels qui se présentent do-it-yourself et qui vont vendre leurs disques 18 balles, je suis capable de l'acheter. Malheureusement.
Ouais.
Effectivement. Ouais. Mais moi, je serais incapable de le faire, quoi. Et les rares fois où je me suis lancé dans
c'est un vrai paradoxe.
Ouais, ça, bien sûr. Mais les rares fois où je me suis lancé dans la production de disques, ça a été des gouffres financiers sans nom, parce que le rapport. Aller voir un gars qui fait un label, il lui dit hey, tu veux bien changer avec moi ? Parce que j'ai sorti ça et tout ça et tout. Ben, t'es super content d'avoir sorti ce disque-là, tu sais qu'il est super bien et tout, mais voilà, le rapport. Tout ça, il est compliqué. Ouais.
Mais si tu arrives
à... La question de ce jeune homme, d'ailleurs, était, que je connais pas,
ouais,
était très intéressante.
Ouais. On le remercie, d'ailleurs.
On le remercie, d'ailleurs.
Si tu arrives à continuer à t'enthousiasmer, en fait, pour la forêt, par exemple, est-ce que tu arrives à mettre ce même degré d'intensité dans tout le reste, dans tes relations tes amours, tu vois, ton rapport à la vie autre. Et si oui, comment tu fais ? Parce que c'est aussi
non,
ça.
Non, je crois pas.
Parce qu'on parlait d'âge, et c'est aussi ça. C'est aussi l'apprentissage de l'enthousiasme qui peut disparaître avec les années, quoi.
Ouais, mais après, comment dire, ce zine, en fait, quelque part, il me dépasse, en fait. C'est-à-dire, j'en suis à 21 numéros réguliers, 23 en comptant les deux spéciaux. Et en préparant ton machin là, je relisais le numéro 1 et je disais, ouais, si j'arrive à sortir 5 numéros, ça serait méga cool.
Mon machin, c'est-à-dire.
Parce que ton émission là, ton truc là. Donc, ouais, je disais, ouais, si j'arrive à sortir 5 numéros, ça serait super cool. Donc, ouais, 10, 16 ou 17 ans plus tard, je sais plus trop, j'en suis à 23 numéros et j'ai pas forcément envie d'arrêter. Et en fait, pourquoi je peux même pas le dire, quoi, parce que, mais j'en suis incapable, mais pourquoi ? Mais parce qu'aussi, ça, pour moi, c'est une sorte de refuge, quoi. C'est-à-dire que on vit des vies tellement. Bousillé, notamment moi, comme plein de gens, hein, j'ai un rapport naze au travail. Et quand je fais le fanzine, j'ai l'impression, quand je me consacre sur le fanzine, gnagna et tout, notamment quand je suis en pleine période de boulot, pour moi, c'est une façon de me dire, en fait, je ne suis pas que mon travail, je suis aussi un être créatif, je pense pas, parce que non, mais je suis aussi un être qui fait des choses pour lui-même, sans qui produit pour. Pas même, enfin, c'est au-delà de moi-même, quoi, qui produit pour un truc qui on a tous été confrontés à des proches, alors nos proches, ils ne le reprochent pas, mais
c'est durable, ça.
Ouais, mais ça peut arriver. Mais pourquoi tu fais ça, tu vois? Mais pourquoi je fais ça? Mais parce que je sers un grand machin qui me dépasse, quoi, qui nous englobe et qui nous dépasse à tous, s'appelle le punk. Et en fait, je suis un dévot un dévot du punk.
Après ce que tu as dit sur les Krishna.
Exactement, c'est pour ça que j'ai, même pour ça que j'ai dit ça comme ça. Je suis un dévot du punk et je lui rends son dû, quoi. Il y a ce côté-là. Et quand je fais ça, je me dis, au moins pendant un moment, j'échappe à ce monde dans lequel je suis pas. Pour lequel je me sens pas adapté, quoi.
Mais cette idée d'être dépassé et d'être porté par, je trouve que l'image elle est incroyable, quoi. Parce que
mais je crois que c'est ça qui nous c'est, je crois que c'est pour carrément. Ça que quand nos âges très avancés on est encore là,
on est là tous les deux.
si on est au pavillon un soir dans un concert et le concert dans l'absolu une fois sur deux on n'a rien à battre des groupes qui vont jouer, mais on est là pour voir les gens. On est là pour voir des gens avec qui on partage des choses et on n'aura pas forcément des grandes discussions philosophiques ou politiques. Mais en tout cas, on sait que le temps de quelques heures, on sera avec des gens qui sont bienveillants, qui sont attentifs à ce que tu es, avec qui tu partages des vraies connexions et t'as pas besoin forcément de développer parce qu'elles ont été faites à d'autres moments. Et voilà, le lendemain, t'es à ton boulot et tu te confrontes à la médiocrité des gens lambda dans les transports en commun et compagnie, quoi. C'est très dégueulasse ce que je viens de dire, médiocrité des gens lambda.
ouais, mais surtout voilà, ça, moi ça, j'ai beaucoup de questions, tu vois, d'un coup qui se bousculent, ça désorganise même un petit peu ce que j'avais prévu. Notamment tu as évoqué le travail et je trouve j'ai du mal à comprendre en fait, même si je connais un peu ta position sur le travail, c'est vrai que j'ai l'impression que tu as un regard assez paradoxal et ambigu, tu es issu d'une famille de prolos, donc j'ai l'impression que c'est important pour toi, ton travail est important, pas pour le fait que ce soit du travail, mais pour ce que tu réalises auprès des autres dans le cadre de ce travail, et j'arrive pas à savoir en fait ce que tu mets en fait dans la, je vais dire la valeur travail en tout cas, l'idée de travail.
Une fois de plus, on est dans un truc de paradoxe. Moi, aux dernières élections présidentielles, j'ai voté Covid.
Ok. Parce que ça t'arrangeait ou...
J'ai voté Covid parce qu'on m'a dit restez chez vous pendant 6 mois et vous touchez votre salaire et vous foutez à peu près rien. Donc c'est un peu ce que j'avais. Ce que je dis depuis très très longtemps, moi, si on me donne mon salaire et qu'on me dit restez chez vous, je signe de suite.
Okay.
Bon, ça n'a pas duré aussi longtemps que ce que je pouvais espérer. Mais même si, comme plein de gens, c'est pas été une période très agréable à vivre. Mais moi, oui, je serai rapport paradoxal et contrarié, bêtement, je me réfugie derrière l'idée que je ne fais pas un boulot banal, ou je fais un boulot qui peut être relativement utile. Mais après, effectivement, ma façon de le surinvestir, elle est pas saine. Mais en fait, en émission de radio, c'est de la psychanalyse qu'on fait là.
C'est les deux.
D'accord. Comme je te dois à la fin.
t'es venu.
Mais on en revient une fois de plus dans un truc de légitimité, en fait. On en revient malgré tout encore un truc de légitimité. C'est-à-dire que moi, dans ma place dans mon boulot, je suis pas toujours sûr d'être légitime. Donc une façon, j'en suis très conscient depuis très longtemps, et une façon de me rendre légitime, c'est de surinvestir et d'essayer de, et je dis toujours aux gens au boulot, j'ai pas la prétention de bien faire les choses, mais par contre à l'instant T où je l'ai fait, je sais que j'ai donné le meilleur de moi-même, ça c'est clair et net, quoi. Et des fois je suis très content et très fier de ce que j'ai fait, des fois je dis ce que j'ai fait c'était vraiment très mauvais. Donc ouais, il y a ce rapport-là, quoi, ce rapport-là contrarié au travail, où pour moi le travail c'est une aliénation, et j'en suis hyper conscient, et en étant hyper conscient, du coup c'est une grosse souffrance, parce qu'au final tu... Voilà, c'est la schizophrénie, quoi, ouais. C'est la schizophrénie, mais je me réfugie derrière l'idée que je fais pas un travail, un travail banal, que je fais pas un travail qui a pas une relative importance sociale, que je peux pas avoir des fois un certain impact sur certaines personnes. Je me réfugie derrière ça, clairement.
Et pour ces personnes, c'est l'essentiel. Et toujours sur cette idée de forêt, en fait, toi qui s'agrandis et des gens qui gravitent autour de toi, j'avais une question. Apathie. Alors, c'est pas Jean-Michel Apathie, évidemment.
Alors, attention, parce que Jean-Michel Apathie est bigourdan.
Donc on peut pas en dire
Ouais, attention, c'est quand même... Ah non, attends, il est peut-être même palois, donc on peut en dire beaucoup de mal s'il est palois. Tarbes. Je crois qu'il est...
Il y a ça de castagné dans les derbys
Tarbes. Vicistarbes, notre peau, comme disait la célèbre compile des années 80.
Et là, c'est le titre de C, en fait. Apathie de C. Alors on s'écoute, ça nous fait une petite pause, une petite respiration, en fait. Donc c'est le titre Apathie de C. J'ai donc passé ce titre parce que ça me rappelle une anecdote qui est assez ancienne. C'est à l'occasion d'un concert, en fait, qui avait dit à peu près en substance que si les punks y mettaient autant d'énergie pour changer le monde, eh ben le monde y changerait, en fait. Alors que c'était un concert, tu vois. Je voulais savoir, puisque là on est toujours sur l'idée de la forêt, là on va parler des autres qui regardent la forêt, en fait. D'après toi, qu'est-ce qu'ils pensent de ça, quoi, de ce petit univers forestier, quoi ?
Ben, je pense qu'ils ne connaissent pas déjà. Ouais. Alors, une petite anecdote, il y a quelque temps, un collègue me disait, un autre collègue, il avait dû connecter tout un tas de micro-conversations que j'avais pu tenir, tu vois, ou qu'on avait pu tenir sur tout ça, quoi. Tu vois, genre, qu'est-ce que t'as fait hier soir ? Je suis allé en concert, quoi. Bah, tu connais pas, c'est un squat et tout ça.
Ouais. Genre de déjà, ça partait bien, la conversation.
Genre de truc, quoi. Tiens. Et un jour, notre collègue, il me fait, ouais, en fait, machin, il est persuadé qu'en fait, tout ce que tu racontes, si tu le fantasmes, ça n'existe pas, quoi.
C'est...
Et j'avais trouvé ça quand même assez incroyable, quoi, tu vois. Pour lui, c'est ce que tu racontes, tu vois, c'est le truc qui existait dans les années 80. Je suis, ouais, bah, écoute, peut-être qu'il croit ça. Alors, c'est un gars qui a sûrement qui a sûrement l'âge d'avoir connu tous les, tu vois, tout le punk rock épitaphe à roulette des années 90, donc tu sais, qui sont restés bloqués sur ça et qui pensent que le punk c'est plus que ça et tout. Et effectivement, et là si t'en veux, d'un arbre qui cache la forêt, t'en as un beau, quoi. C'est un énorme baobab.
Ouais.
Et donc, tu vois, qui s'imagine, donc, qui a lu lire un ou deux trucs, j'en sais rien, sur les squats et les punks des années 80, j'en sais trop rien, qui a dû voir une émission en France Culture avec Laurent, qui nous racontait combien de squats Palikao, c'était méga bien, quoi. Et bon, t'as pas envie, qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ça, tu vois, un spot là, ce collègue là qui est un super pote, ben j'ai balayé la conversation, ça m'intéressait pas, et cet autre collègue, j'ai pas allé le voir pour dire, mais non, en fait, tu te trompes, en fait, tu vois, il y a des squats qui existent encore, il y a des gens qui sortent des disques autoproduits, qui font des tournées sans gagner d'argent, tu vois, ça m'intéresse pas, moi, d'aller parler de ça à ces gars-là qui, ce même mec là, après le premier Covid, qui était offusqué parce qu'en fait, à cause des retards que prenaient les chantiers, il aurait pas sa piscine cet été-là, quoi. Tu vois. Donc, tu crois que ça m'intéresse d'aller parler d'anarchie radicale, ouais, et de squat avec un mec comme ça. C'est le cas de mes soucis, en fait. Je pense que les gens le connaissent pas. Alors après, on a des gens. Tu vois, ton groupe C, là, je connais quelqu'un qui qui porte à peu près vaguement le même nom.
Ouais, vaguement. C'est un hasard. Hein.
Et ouais, je pense que c'est un total hasard.
Ouais,
mais c'est un milieu qu'elle connecte de très très loin, mais elle mesure ce qu'il a, elle mesure ce qu'il est, elle mesure ce qu'il est, elle mesure vraiment ce qu'il est, et donc bon, voilà, enfin, il y a des gens qui, ouais, qui sont dans nos périphéries très proches, ouais, qui,
c'est là où je veux en venir,
oui, voilà, qui, ouais, qui peuvent savoir ce qu'il en est, mais après, dès que t'es dans tes relations professionnelles, dès que tes relations un peu plus amicales, un peu plus éloignées, à quoi ça sert de des fois j'ai quelques collègues, je m'entends assez bien avec qui, tu vois, ouais, toujours à base de qu'est-ce que t'as fait ce week-end, et tu peux rentrer un peu plus dans les détails, ouais, de ce genre de choses, et tu sens bien le troupeau d'anges, en fait, t'as tout le paradis qui passe, quoi, parce qu'ils sont pas en mesure de comprendre, parce que je pense, malgré tout, c'est le même truc, on est moins confronté de nos jours, mais quand les gens découvrent que t'es végétarien. Ah, moi, je pourrais pas être végétarien, c'est trop dur. Hein. En fait, on en a rien à faire, en fait. De comment tu le ressens, nanana. Voir qu'il de suite était dans un truc très défensif, dire, ah ouais, mais tu vois, nanana, l'homme il est omnivore, tous ces discours qu'on a connus pendant. Et en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que ces gens-là, si tu leur parles, je pense, si tu leur parles de ces milieux-là qui sont. Je sais pas si on peut dire radical, je sais même pas si c'est radical, parce que la plupart de nos potos, ils se voient pas radicaux, quoi, au final, hein, tu vois. T'es d'accord, quoi.
Oui, oui, c'est la base.
Ouais. Mais je crois qu'ils sont pas du tout en mesure, parce que ça leur enverrait trop de choses. Enfin, quand tu peux parler à des gens, moi, ça m'intéresserait de pouvoir dire, ouais, j'ai écouté l'émission de mon cousin la semaine dernière, il a invité des gens, en fait, bon, c'est un collectif, là, ça s'appelle Food Not Bombs, ils font de la récupération et ils font des repas végé ou vegan gratuits dans la rue, tu vois, et tout. De quelle façon les gens sont en mesure de comprendre ça, ça fait sûrement arrogant de dire ça, mais ça se veut pas du tout comme ça, mais je pense que parce qu'ils n'ont pas le logiciel, en fait, et c'est pas leur faute. Tu vois, et c'est pas leur faute, quoi. Il y a plein de gens et de gentes qui étaient persuadés il y a 6 ans que Madame Schiappa, quand elle est arrivée, c'était une vraie féministe. Il y a plein de gens qui étaient persuadés de ça. Tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Comment tu vas aller leur dire? Donc, tu vois, leur parler d'un truc qui concerne quelques centaines de personnes. Je pense qu'ils sont pas en mesure de le comprendre, mais comme ils sont pas en mesure de comprendre le monde du Technival,
ouais, ouais,
au final, c'est pareil, c'est le monde des free parties, quoi. Je crois qu'ils sont pas en mesure de le comprendre, ils ont juste des stéréotypes, des clichés qui vont balancer sur ce qu'est le monde des free parties.
Et puis il y a aussi cette idée là que leur monde de winner, s'effondre. Enfin, je veux dire, là, on peut largement.
Et justement, tu veux pas le. Ouais, justement, je pense que cognitivement, t'es pas en mesure de le signifier, ça. tu peux pas te dire ouais c'est que le mode de vie que j'ai choisi il est en train de. Moi je me souviens d'un gars qui avait fait il y a maintenant une petite vingtaine d'années qui s'était questionné sur le fait de la paternité et avec sa compagne ils avaient fait une compilation sur le sujet et c'était une compilation qui était hyper enrichissante intellectuellement. Moi j'ai fait le choix de la non reproduction pour des raisons hyper pour des raisons politiques. Quand des collègues, parce que ça, je reprends toujours l'exemple du collègue, parce que c'est le plus symptomatique à chaque fois, tu dis ouais, mais c'est hyper égoïste. Moi, tu leur réponds, mais c'est aussi égoïste de faire des enfants, de ne pas en faire des enfants. Moi, je sais pourquoi je fais des enfants. J'ai fait le choix de ne pas faire d'enfants, pardon. Est-ce que toi, tu sais pourquoi tu as fait le choix d'en faire des enfants ? Et ces gens-là, non, ils ne le questionnent pas. Et moi, de plus en plus, je m'amuse à le dire, tu vois, quand j'ai des collègues maintenant qui se veulent soi-disant écolo et à qui tu dis, mais hey, tu as fait 3 gosses. T'as fait 3 gosses, donc t'es conscient qu'en fait, on est en train de flinguer la planète et t'as fait 3 gosses. Mais j'espère que tes gosses, un jour, ils te feront un procès ou ils tireront une balle dans la nuque pour ça, quoi.
En plus, ça tient pas l'argument de l'égoïsme. Je vois pas en quoi ne pas faire d'enfant est égoïste.
Il tient pas parce qu'il est totalement réversible. Donc pour moi, du moment que l'argument est totalement réversible, il ne tient pas. Effectivement,
Il n'y a pas de bon argument pour faire des enfants.
Et il n'y a pas de bon argument pour en faire. Il n'y a pas forcément. Enfin, aussi, pour moi, il y a des bons arguments pour ne pas en faire.
Pour ne pas en faire. Absolument. Il y a plus de.
Ouais, certainement.
D'arguments certainement, pour ne pas en faire que d'en faire. Évidemment.
Mais ces gens-là, quand tu les questionnes sur leur non-questionnement, ils ne se questionnent pas. T'as compris ?
La question. Moi, je c'est une question parce que moi, je préfère les questions.
On en revient au truc de la base. C'est vrai, la question, la réponse.
Et tu sais, alors, on est un peu premier toujours dans cette forêt. Et tu disais la compréhension. Donc là,
c'est quoi le rapport avec les fanzines là ?
Je sais pas.
Moi, je te dis
pas.
C'est
fait avec quoi ? Excusez-moi, monsieur.
Ah oui. Ok.
J'allais dire non. Excusez-moi, monsieur Obzozin. C'est fait à base de quoi ? Hein,
de narbre.
Exactement. Oui. Et donc là, on n'arrive pas à se faire comprendre, on ne veut pas se faire comprendre en fait, par le petit village autour, tu vois, mais parfois
par le village global
ça fait trop flipper, ouais, et parfois les petits êtres qui peuplent cette forêt, eh ben, on se comprend pas forcément, quoi. Et de nouveau, on en parle souvent, le fait d'être parfois stigmatisé pour notre âge, d'être disqualifié, tu vois, par l'âge, c'est-à-dire genre, à partir du moment où tu vas dire un truc, on va dire bon laisse tomber, genre c'était mieux avant, un petit peu le début de la conversation.
Ouais.
Tu vois que l'argumentation, t'as l'impression qu'il est faussé par le problème supposé de l'âge.
Moi, on va te disqualifier par rapport effectivement à ça, quoi. C'est un vrai problème. Et effectivement, moi je depuis peu, ça a tendance à me brider, ouais. Ça a tendance à me brider parce que alors que c'est pas forcément les intentions des personnes en face, elles ont peut-être même pas consciemment ou inconsciemment envie de dire ouais mais t'es un daron de 50 balais donc tais-toi. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas là-dedans, mais que moi j'ai hyper intériorisé ce truc, tu vois, quoi, aller de post-boomer, on va dire, tu vois, où forcément t'as 50 ans ou pas loin que ce soit, donc ton discours il est sur des vieux schémas. Oui, en partie il est sur des vieux schémas, je pense, ouais. Après, je pense que toi, moi et d'autres personnes qu'on connaît de nos générations, on va continuer à se questionner. Et
à faire des mises à jour.
À faire des mises à jour, ouais, tout à fait. Et par moment, sauf que par moment, c'est la mise à jour, eh bien, pour que le temps... Ouais, j'aime bien aussi cette nouvelle image. Des fois, pour que ton ordinateur il tourne bien, peut-être que des fois, quand même, tu vas utiliser un logiciel un peu plus ancien, quoi.
Un peu plus lent.
Ouais, un peu plus lent peut-être, ouais, effectivement, mais qui va mieux fonctionner ou quoi que ce soit, parce que moi je pense que ce qui est hyper positif dans tout ce milieu de la punk et tout, c'est que ça t'amène à la réflexion permanente sur plein de sujets, et ça passe par la confrontation. Et moi, il y a plein de moments où je me retrouve à défaut dans une conversation avec des gens proches. Mais cette conversation elle va pouvoir m'habiter des semaines et des semaines, et je sais que 2-3 mois plus tard, ma ligne elle va avoir bougé grâce à une conversation que j'aurais pu avoir. Et je sais, mais ça va aussi dans l'autre sens, quoi, où des personnes plus jeunes vont pouvoir me dire ouais, il faut utiliser ça, ouais, je me dirais pas, mais je vois ce que tu veux dire, nanana. Et moi j'en ai plein d'exemples comme ça, quoi, dans les deux sens. Et c'est ça, en fait, et du coup Et c'est ça qu'on va trouver dans cette forêt-là. C'est-à-dire qu'on peut malgré tout échanger, même si on n'est pas toujours d'accord sur tout. Et parce qu'on fait attention quand même à pas brutaliser la personne. Et chacun peut faire bouger ses lignes par rapport à ça. Alors que dans ce que moi j'ai tendance à appeler le vrai monde, malheureusement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué, quoi. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire les gens, ils, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu veux, c'est trop dérangeant ça de bouger tes lignes, quoi, parce qu'en fait tu peux pas remettre en cause quand tu arrives à 40 balais, 45 ans, que tu as fait des choix de vie qui au final moi je les dans l'absolu je les jugerai même pas en fait. Tu les as pas fait en fait ces choix de vie, c'était les seuls que tu voyais arriver en fait. Les seuls qui est débarqué, quoi. Donc ouais, par rapport à tous ces gens-là qui sont dans la vraie vie, ben tu peux pas arriver. Ouais, mais toi forcément tu as des positions, mais moi je me suis retrouvé dans des situations hyper compliquées au travail où et les gens comprennent pas, tu vois, où je me suis trouvé quelques années face à une situation de sexisme ordinaire, d'une violence inouïe. J'ai une collègue qui vient me reporter ça, moi je suis là waouh. J'ai deux autres collègues femmes qui sont hyper vénères après ça. Et qui viennent me voir et qui viennent me donner à moi ce qu'on doit faire. Et je dis, mais moi, je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire, en fait. Moi, j'ai mon point de vue sur la chose, je partage votre point de vue, je sais ce que je ferai, mais ce n'est pas à moi à vous dire ce que vous devez faire. Et elle ne comprenait pas. Alors que c'était des collègues avec qui j'ai d'excellentes relations et tout, mais elle ne comprenait pas ça, quoi, tu vois, elle ne comprenait pas ça. Dans les milieux qu'on fréquente, à quel moment une meuf viendrait te voir, viendrait te dire à toi, mec, et qu'est-ce que je dois faire par rapport à cette situation de violence sexiste? Jamais ça arriverait. Tu vois ce que je veux dire? Et là, quelques temps plus tard, l'une des collègues m'a dit, ouais, franchement, tu nous as laissé tomber. Je dis, non, je ne vous ai pas laissé tomber, mais moi, je ne peux pas, en tant que mec, te dire ce que toi, tu dois faire face à une situation de sexisme aussi violente que ce qui s'est passé. Enfin, c'était des propos tenus par une direction, quoi, tu vois, c'était d'une violence inouïe, quoi. Ouais, j'étais aussi révulsé, mais après j'avais plein de collègues mecs, mais alors qu'ils s'en foutaient, ouais, c'est bon, ouais, c'est pas grave, quoi. Tu vois, c'était ça quand même, le climat général, c'était ça, quoi. Mais moi, on vient me voir en temps, donc tu vois, déjà dans le vrai monde, t'es quand même perçu comme le gars qui peut avoir des idées un peu je sais pas comment dire ça, mais malgré tout les gens mesurent pas
voilà, symbolique,
ouais, des situations, quoi.
Avant de reparler de Zine, puisque tu voulais reparler des Zines, on peut peut-être s'écouter un titre de ta playlist, si ça le fait, t'as dû choisir.
Ouais, mais non, j'ai rien choisi, tu peux pas choisir toi?
Non, carrément pas, non, c'est toi, monsieur Abzozine, c'est ton émission.
On peut pas enchaîner deux qui sont relativement courtes? Allez, genre la 1.
Discharge.
Ouais, avec l'avant-dernière, la 9.
Lifetime.
Ah, ça, non, là non, avant Lifetime.
Mega Stifor.
Yes.
Ah, ça, t'aimes bien ça.
Ah, je suis méga fan.
Non, mais t'aimes bien le groupe, mais t'aimes bien passer de Discharge à Mega Stifor.
Ah, mais en plus, ouais,
parce c'est que classe, c'est un peu, ça te ressemble,
oui,
bien.
Amour,
c'est
ouf, ça. Amour.
Bravo. Bon, bah alors, par contre, ça demande un peu de compétences techniques. Je suis pas sûr d'avoir.
Mais si.
Bon, je le tente. C'est gentil.
T'as fait ton stage de Rire et Chanson, je te rappelle.
À Rire et Chanson. Oubliez pas, hein. Matt et Berthier à la compta, s'ils nous écoutent d'ailleurs. Bon, je le tente.
Allez.
Discharge et Mega Stifor. Ah, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. C'est parti. We'll be right back. Tu peux nous parler des zines alors ?
Des zines en question ?
Ouais, des zines en question.
Alors, premier truc à dire, c'est que pendant le premier morceau, pendant le décharge, je ne sais pas si tu as fait attention, la chaise en face, là, elle a bougé et j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de fantôme d'un gars, une cinquantaine d'années, qui parlait avec un fort accent gersois, il me disait Agatoc, je ne comprenais pas ça voulait dire. Donc j'ai cru que c'était du patois, tout ça. Et cherchais, en fait, non, a priori, ça serait un groupe de grind de Belges. Ouais. Donc a priori, il y aurait le fantôme de cette personne.
Son ectoplasme, ouais. Ah, mais il est avec nous, toujours, il est toujours là, quoi.
Donc, dédicace à notre ami Philly.
Ben ouais.
Donc, ouais, le premier morceau, c'était Discharge, c'était Reality Savoir, sur le premier EP de Discharge, qui s'appelle Reality Savoir. Mm-hmm. Et c'était un super fanzine années 90, de Gers. De notre ami Michel.
Ouais.
Michel, si tu nous écoutes.
Ah ouais, Michel
Forever.
Ouais.
Ah ouais. Super fanzine.
Dessinait en plus.
Il dessinait avec des seuls BD anti-emo.
Anti-straight edge.
Anti-straight edge, c'est vrai. Et plutôt anti-straight edge qu'anti-emo. Peut-être que je sais plus. Mais bon, moi j'étais très fan et d'usine et après. De Michel et de Disbia et tout ça, etc. Mmh. Et donc voilà, Reality Savoir qui a fait combien, je sais plus, 4, 5 numéros, 6 peut-être même, 6 numéros je dirais.
Ah, ça j'ai pas les chiffres en tête.
Et après donc c'était Mega City 4. Alors là on va le dédicacer à Alex et Pablo.
Ok, ah bah oui, hein, oui, bien joué, allez,
tant qu'à faire. Hein.
Carrément, ça le fait. Ça fonctionne pour le coup.
Et il y a une double entrée. Le morceau c'était 21 Again sur l'album Transophobia.
Ouais.
Et donc 21 Again, donc c'est un fanzine des années, première partie des années 90, 92, 95 je dirais, de Marseille.
Ouais.
Donc orienté cette scène maintenant qui n'existerait plus, mais justement dans laquelle Mega City 4 pouvait exister, les trucs style les Thugs, c'était pas vraiment indé, c'était pas vraiment punk.
Ouais, carrément. Ils étaient sur Bondage pourtant, Mega City 4.
Oui, c'est vrai, ouais, Mega City 4 c'est sur Bondage International.
Ouais.
C'est
de l'arnaque.
Moi, je suis méga fan de Mega City 4. La voix de Wiz, je la trouve incroyable. Et donc, c'était sur l'album Transophobia. Zine de
Eh oui, bien joué. D'où la double entrée.
La double entrée, 21 Again, Transophobia. Donc, Zine de Saint-Etienne, de notre ami Sylvain. Sylvain, si tu ne nous écoutes pas.
La concurrence écoute quand même, tu sais, parce qu'ils s'inspirent.
Oui.
Ils ont intérêt, s'ils veulent rester au top.
C'est sûr. C'est un peu leur doc de foule.
On leur a tout appris. Mais oui, bien sûr.
Donc voilà, donc ouais. Et puis moi je suis méga fan. Méga si fort, je suis méga fan de tout. Et là, Coming Out, Discharge, moi je suis surtout très très fan de ce premier EP. Et après, je trouve ça assez redondant et assez inutile. Et là, je crois que je viens de signer mon arrêt de mort si je vais du côté de Bordeaux.
C'est pour ça que Philippe il aime bien, c'est le côté redondant.
Oui.
Tu sais que ça fait partie du truc.
Oui, ça fait partie. Non, mais ce premier EP, je trouve quand même incroyable. Sur le premier album, il y a vraiment aussi des tubes. Mais je trouve que sur la longueur, ça s'essouffle quand même pas mal, quoi. Discharge. Voilà, quoi. Bref, n'écoutez pas Discharge. Non.
Et en plus, tu peux toujours les écouter. Parce que Discharge, ils étaient genre au Hellfest.
Ah oui, bien sûr.
Le chemin parcouru entre je sais pas quoi, Birmingham. Ouais. Bon, je dis ça au hasard. Mais...
Non, ils sont de Strong Compton.
Ah mince, tu le sais. Ça aurait pu passer. Ouais. Bon, alors moi, j'ai une anecdote. J'ai vu Mega City 4. Non, mais ce qui est dément. Non, mais attends. C'est carrément fou. J'en avais rien à foutre. Je venais voir, c'est te dire le niveau, les cadavres que je voyais tous les week-ends.
Ah ouais. Super.
À Paris, en région parisienne, je me suis dit, tiens, ça fait 200 fois de les voir, une petite 300e fois, tu vois, dans un lieu qui s'appelait le Blues du Nord à Pigalle.
Ah oui, je connais le nom. Tu connais ? Ouais, je connais le nom, bien sûr.
Et là, je vois ces gars débarquer, mais c'était un supplice déjà. Ils jouaient. Bon, ça jouait longtemps. Bon,
mais t'es fou, t'as vu Mega City 4.
Ouais, c'était chiant, gars, quoi. Je suis désolé.
Ah ouais, mais toi, t'es personne non grata du côté d'Alex, c'est pas bon.
Ah ben ouais, mince.
J'espère qu'ils n'écoutent pas l'émission.
Non, mais personne n'écoute, t'inquiète.
Ouf. Non, Mega City 4, c'est la classe. Alors moi, puisqu'on a une petite anecdote,
vas-y.
Je connais plus le groupe qu'il avait fait parce que Wiz est décédé.
Ah mince. Ben, on rigole, mais c'est pas.
Une quinzaine d'années de ça maintenant,
okay.
Je pense, un truc comme ça. Et donc le groupe qu'il avait à l'époque, je me souviens plus le nom. Et en fait, à l'époque, j'étais sur Paris, mais ce week-end-là, j'étais rentré sur Toulouse. Et son groupe jouait, je sais plus trop où. Et évidemment, le train a eu du retard.
Ah mince!
Et tout le long, c'était le début du téléphone, portable. Et tout le long, j'ai changé des messages avec
le copain
qui était sur place. Et je suis arrivé, Mais je te jure que c'est vrai, mais vraiment comme dans les pires trucs, il disait au revoir quoi.
Oh non. Merci. Et à toi en plus, voilà. Particulier. Okay,
j'arrive dans la salle avec mes valises et tout ça. Et oh, merci. Good night. Possible. Good night. Thank you. Good night.
Par contre, tu peux dire que tu l'as vu. Tu l'as pas.
Ouais, tu l'as pas entendu, mais tu l'as vu quoi. Tu peux dire ça.
Ah, c'est chaud.
Donc voilà, et quelques temps plus tard, il décédait. Je sais plus trop, une maladie, je sais plus trop quoi. Bon. Bref.
Faut
voilà.
Pas y voir un lien quand même.
Non, ça n'a aucun.
L'a pas fait exprès pour jamais que tu puisses voir.
Ma parano n'atteint pas ce niveau-là.
Genre le mec parano. Quoi ? En plus, le mec, il a fait exprès de mourir. Je le vois jamais en concert. Et d'ailleurs, ton logo.
Oui,
c'est ça, je voulais te dire, c'est une Underwood, c'est ça ? Tu prenais la petite machine à écrire ?
Ah oui, oui, alors, effectivement, Matt d'Underwood l'avait utilisé aussi. Voilà. Effectivement, t'as raison. Mais non, c'est le hasard.
Ah, c'est le hasard. C'est à vie d'ordure, on aime bien aussi, on l'aime bien, quoi. On adore cette Underwood. Alors, ça me fait penser à la littérature. Est-ce que tu penses qu'il existe une littérature punk ? Comme on essaye de nous le faire croire ?
Je sais pas, je pense oui et non, j'en sais trop rien. Je pense qu'il y a d'anciens punks ou des punks qui font de la littérature, la plus connue étant certainement Virginie Despentes. Alors effectivement, quand tu lis Virginie Despentes, ne serait-ce que son dernier Vernum Subutex, effectivement, c'est plein de moments, il y a des références, voilà, va citer Sid Fugazi, des choses comme ça. Je pense que dans d'autres, j'oublie le nom de l'anglais qui a fait toute la série sur les skins, le foot et tout ça.
John King.
John King, exactement. Donc effectivement, c'est oui. Mais est-ce que c'est de la littérature punk ? Je sais pas, parce que est-ce que la littérature punk, c'est parce que je parle de punk ou je fais des références au punk, c'est la littérature punk ? Ouais. Est-ce que la façon d'écrire fait que c'est la littérature punk ? Donc dans ce cas, la littérature punk, c'est William Burroughs. Tu vois, franchement, je sais pas. Après, pour extrapoler, pour aller un peu plus loin, à une époque, ça a pu être l'un de mes chevaux de bataille. L'un de mes chevaux ou l'un de mes chevaux
si un cheval de bataille écoute,
qui nous le dise. Et là où j'ai un peu plus de mal, alors ça a été notamment un sujet de, parce que tu m'amènes sur ce terrain-là, je te vois très bien arriver sur ton grand cheval de bataille
tout.
Justement.
Cheval.
C'est ton cheval de bataille. ça a pu être l'un des points de discorde avec Alex qui faisait Rat Charge et qui maintenant fait.
Psycho
Disco, voilà.
Disco.
Qui est un interview dans le dernier Obsousine.
Très bien.
Et bien fait. 60 pages disponibles dans toutes les bonnes librairies. Et effectivement, quand je sens une velléité à vouloir faire de la littérature à partir de l'écriture parce qu'on a écrit dans le punk, ça peut poser un peu problème parce que pour moi, le fanzine, c'est une fin en soi. L'écriture comme ça, c'est une fin en soi. Après, que tu prennes goût à ça, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas, que les mêmes personnes, et c'est là où le problème pour moi existe, que les mêmes personnes ne viennent pas reprocher à Ian McKay de passer de Teen Idles à Fugazi. C'est-à-dire que ce mec, il évolue comme musicien, et au bout d'un moment, il cherche à faire quelque chose de plus sophistiqué. Teen Idles, c'est un fanzine, et Fugazi, c'est un roman. Tu vois l'analogie que je veux faire là ?
Ouais, complètement.
Et on ne peut pas faire donc ce reproche à Ian McKay d'avoir ce parcours-là musical, c'est-à-dire en ayant arrêté de faire un truc un peu à l'arrache, un peu bancal, etc., qui valait ce qui valait, qui fait juste un 45 tours, nanana, pour passer à un groupe très, très sophistiqué avec des heures et des heures de travail, de répétition, des jours et des jours d'enregistrement avec un son très travaillé, très chiadé, etc. Et vouloir devenir à son tour écrivain. Et donc, parce que pour moi, c'est exactement la même démarche esthétique, quoi. C'est-à-dire un fanzine, je sais pas écrire, je peux faire un fanzine, je sais pas faire de la musique, je peux faire du punk. Mm-hmm. Alors que faire du heavy metal, et bien ça me demande des compétences et des capacités de musicien. Écrire comme et là tu mettais l'auteur de votre choix, ça demande du travail. Tu vois, j'en parlais avec Alex là il y a quelques temps quand il était venu sur Toulouse pour présenter son roman. Et qui me disait effectivement qu'il avait écrit, que ça avait demandé du travail. Et il ne met pas cette énergie dans ses groupes. Il ne met pas la même esthétique en fait dans ses groupes. Plus par principe, ces groupes, ils sont à l'arrache, ils sont fauchés, comme il aime bien le dire. Et c'est très bien comme ça.
Est-ce qu'il y a une notion de travail là, alors justement ?
Dans la littérature, je pense qu'il y aurait une vraie notion de travail, quoi. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Alors que
toi, tu travailles pas.
Non.
Mais tu passes du temps.
Oui, mais c'est du temps, mais c'est pas du travail où je refais pas une chronique. À la limite, je la lis deux trois fois, je l'envoie à Monsieur P. Qui ferait un très bon d'ailleurs auditeur anonyme qui poserait des questions, je trouve, pour qu'il corrige les fautes. Voilà, il les corrige. Bon, il en oublie au passage une ou deux, etc. Et ça donne un truc qui n'est pas parfait et qui s'appelle fanzine. J'aimerais qu'il n'y ait pas de fautes, clairement. J'aimerais que des fois, dans la syntaxe, dans la grammaire, tout soit bien structuré et tout. Mais je ne me prends pas la tête quand je commence une chronique. Après, il y a un mécanisme. C'est-à-dire que si je fais. Je suis un peu laborieux sur mon clavier, clairement. Mais si je fais 3-4 chroniques, je sens bien qu'au fur et à mesure, la deuxième, la troisième, la quatrième, les phrases elles vont être plus fluides, elles vont plus venir, je vais avoir un peu plus entre guillemets de punchline, tu vois, il va y avoir plus de tournures, etc. Tu vois, ouais, ça donc, c'est sûr.
Donc le style est important.
Enfin, oui, mais le style reste important. Aussi, ouais. Mais t'as envie, j'ai pas envie de faire, tu vois, on pourrait parler d'une émission. Une émission de radio que tu as connue avec quelqu'un qui ne la fait plus, ou voilà, bon, c'est un groupe de grind tchèque. Non, ils sont pas tchèques, ils sont anglais. Ils ont sorti un Colin Ceinture. Bon, vous passez le morceau, c'est la face B qu'on a passé, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Bon, ça a son charme, bien évidemment. Mais faire une chronique complètement descriptive sans aucun intérêt, moi j'ai pas la prétention à écrire du tout, vraiment pas. Mais j'espère que les gens s'ennuient pas en lisant mes chroniques, quoi. J'espère un minimum. Que sur le fond et sur la forme, des fois j'essaie de. Alors ça marche pas forcément parce que je suis pas un mec marrant, mais j'essaie de dire des trucs marrants. Bon, ça marche pas, ok. Et des fois j'essaie d'aborder des sujets un peu plus annexes autour du fanzine, qui peut être un truc qui m'a intéressé politiquement ou qui m'a dérangé politiquement, et je vais développer et donner plus ou moins mon point de vue sur le sujet, tout ça et tout. Et c'est ce qui fait l'intérêt de la chronique, quoi. Mais faire une chronique simplement descriptive, ça serait vite lassant, quoi.
Mais malgré tout, on peut pas nier que tu passes du temps, parce que on passe du temps à tout ce qu'on fait, nos activités, du
évidemment,
temps
évidemment. Une interview, ça me prend peut-être, ouais. Ça peut aller jusqu'à 10 heures de travail, une interview. Là je suis en train d'en préparer, ça c'est du travail, c'est du temps plus que du travail,
notion entre travail et temps.